Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed, and receptive.
Friction.
Portraits musicaux d'une foule vagabonde.
Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue dans Friction, l'émission de musique et de création littéraire sur Radio Campus Paris. Alors avec Marion, nous sommes très heureux d'être là ce soir, peut-être parmi vous, peut-être parmi personne. Ce ne serait pas surprenant car il est 22h30, ce qui est un peu tard pour un lundi. Les studios de la radio sont vides, nous avons éteint presque toutes les lumières. Au loin, quelques vagues sirènes de police, mais notre radar ne détecte rien d'autre. Nous sommes quasiment perdus au beau milieu d'un silence total. Expérience radicale en soi, radicale comme peut-être notre thème de ce soir, n'est-ce pas Marion ?
Bonsoir William, mais quelle introduction.
J'adore
incroyable.
Cette transition.
Et c'est bien, t'as écrit plein de trucs et moi je suis là genre Marion, deux points, il n'y a rien. C'est de l'intro, c'est de l'impro juste pour dire qu'on parle de science-fiction ce soir. Mm-hmm. Voilà, on ne s'est pas donné vraiment un thème mais plutôt un genre qu'on avait envie d'explorer. Un genre dont on est fan déjà dans la lecture. Et voilà, donc le modèle d'émission de ce soir, c'est que tu vas nous déployer une histoire sur plusieurs chapitres qui vont s'enchaîner, donc entrecoupés de musique. Et puis ensuite, en seconde partie, je déploierai moi mes histoires et, voilà, qui sortent de notre imagination. Pour résumer, toi, on va parler de quoi ? Comment tu pourrais... Ouais,
c'est une histoire d'une confession amoureuse d'un menteur à son être aimé avant un grand départ.
Ok.
Voilà, d'accord. J'en dis pas plus.
Ok, bon. Eh bien, pour ma part, je n'ai pas vraiment un résumé d'histoire à proposer, mais plutôt différentes thématiques. Les prochaines élections présidentielles m'ont grandement inspirée, ainsi que mon lieu de vie qui est la Bretagne. Voilà, donc on se lance.
C'est parti.
À toi, William.
2225, station stellaire Soutrov 4, au cinquième étage de la tour Drimon. Stig est face à la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Dehors, de tous les coins de la Fédération humaine, des vaisseaux et des cargos commerciaux décollent ou atterrissent dans un balai sans fin. Cette chorégraphie, Stig ne la connaît que trop bien. Il tire une latte sur sa Vapezzi et recrache la fumée épaisse contre la vitre. Une Vapezzi au réel goût de tabac martien, d'après le vendeur du quartier noir de Soutrov 4. Il n'est jamais allé sur Mars et n'a jamais fumé de tabac qui ne soit pas de synthèse, mais comme toutes les illusions de son monde, il s'en accommode. Derrière lui, dans le lit défait, dort un garçon mince aux longs cheveux noirs. Une épaule nue dépasse de la couette, éclairée par les phares des vaisseaux. Stig met ses lunettes Lockhart sur le nez et colle le micro-récepteur à son crâne. Ses yeux se mettent à s'agiter. Il sweep les actualités qui apparaissent sur son écran et désactive les notifications du réseau. Il ouvre l'application Intimal et par la pensée, commence à lui dicter une note. Ravik, je ne sais pas encore si je t'enverrai cette note, mais le simple fait de l'écrire soulage ma conscience. Cela fait maintenant un mois que j'ai atterri sur Soutrov 4 et un mois que l'on passe toutes nos nuits ensemble. Je repars demain et je n'ai pas osé te le dire. Et je dois t'avouer qu'en réalité, je t'ai menti sur pas mal de choses, Ravik. Tu penses que je suis un voyageur local en permission, mais je suis un agent commercial de la Krenika, un employé qui traverse tout l'espace connu et colonisé pour vendre et acheter des ressources. Principalement des batteries solaires, car comme tu le sais, c'est ce qui alimente le mieux toutes les technologies existantes. Que ce soit celle des intelligences artificielles, des androïdes, des postes humains comme moi, ou des anciens terriens comme toi. Et j'ai donc un vol qui repart demain, pour 3 mois. Cela veut dire que nous ne reverrons sans doute jamais. Je sais que ta famille et toi n'ont jamais quitté la station, mais connais-tu vraiment la Krenika, Ravik ? La Krenika, c'est une poche aussi petite qu'immense. Elle contracte l'espace et le temps et permet aux colons, ou aux simples agents commerciaux comme moi, de parcourir entre deux stations commerciales, comme Soutrov 4, des distances absolument gigantesques dans l'univers. Par cette technologie, nous dépensons très peu d'énergie et très peu de carburant. C'est comme une sorte de téléportation, via un tunnel avec des milliers de ramifications. Un tunnel si contracté sur lui-même qu'il se tient dans une poche, une Krenika. Mais qui dit voyage temporel dit dilatation du temps. Un mois à bord d'un vaisseau comme le mien équivaut à environ 20 ans sur un point fixe comme le tien. Lorsque je reviendrai, après ma mission de 3 mois, j'aurai toujours 35 ans, mais tu en auras 60 ans de plus. 90 ans, Ravik. Tu seras un vieil homme. L'espérance de vie des anciens dépasse rarement les 100 ans. Un siècle. À peine quelques minutes à l'échelle de mon existence. C'est terrible, hein ? Ce matin, et je crois pour la première fois de ma longue vie, cet écart de perception temporelle, cette différence de rapport au monde me trouble. Et pourtant, je suis censé savoir filtrer ces émotions. Nous, les agents commerciaux, nous sommes programmés pour très peu s'attacher à l'autre. Nous sommes des vendeurs, des transporteurs. Nous sommes paramétrés dès la naissance pour encaisser la vie dans la krenica et de station en station. La sexualité est interdite lors des voyages, alors on s'amuse dès qu'on peut, dès qu'on est de passage sur une station. Des corps, des nuits de sexe avec toutes les espèces, tous les genres possibles, j'en ai eu. Et je suis toujours reparti, fier de ma mission, fier de participer à l'équilibre démocratique que vit notre fédération. Je suis un pion, Ravik, essentiel mais invisible. Je fais partie de ceux qu'on oublie. Et je n'aurais pas dû activer ma perception empathique lorsque nous nous sommes aimés cette première nuit. Car désormais, je vais être celui qu'on attend et que l'on regrette. Et je vais connaître le manque et l'amertume du regret.
When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear somewhere, begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time. Say goodbye.
Ceci est une partie de ma confession. Je t'ai menti, Ravik. Lorsque tu m'as demandé ce que j'ai vu dans l'univers, je t'ai menti. Non, je n'ai pas vu les planètes s'allonger sur elles-mêmes à 360 degrés lorsque mon vaisseau passait du zéro à la vitesse lumière. Non, je n'ai pas vu ma vision tendre vers le violet, le pourpre et le mauve lorsque la vitesse s'accélère. Non, Ravik. En réalité, même au quart de la vitesse de la lumière, notre cerveau n'aurait pas le temps de traiter les photons et les informations sans exploser sur lui-même. Dans la Krennica, nous ne voyons que du noir, pure ténèbres, pure abstraction de l'espace. Je t'ai menti, Ravik. Je n'ai pas exploré de système solaire ni de planète tellurique. Je n'ai pas vu de grands navires de guerre en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Je n'ai pas traversé de nuages de poussière de gaz aux nuances ocre et orail et corail. Je n'ai pas vu non plus d'étoiles imploser sur elles-mêmes et remplir l'espace d'une lumière vive. Je n'ai pas vu de super volcans en éruption sur des planètes dont la surface ondulait de lave et de magma en fusion. Je n'ai jamais pu observer deux soleils se lever en même temps au-dessus d'un lac de glace. Et je n'ai jamais fait voler mon vaisseau sous une pluie qui tombait depuis 2000 ans. Je ne suis qu'un colporteur de marchandises. Je vivote de station en station, et ma vie est tout sauf spectaculaire. Alors certes, je gagne plus de jetons que toute ta famille réunie, et souvent, c'est vrai, je la dépense dans les drogues et le tabac de synthèse ou les sexodroïdes. Mais le reste du temps, c'est pour apprendre à Vic. Tout ce que je t'ai raconté sur l'univers, son immense beauté, tout cela est vrai. Tout cela existe. Je l'ai vu et je l'ai appris grâce aux réalités alternatives, grâce à la liberté que nous propose le métavers. Et j'ai beaucoup lu sur le monde d'où tu viens, Ravik, le monde des anciens, la vieille terre. Oh, si seulement j'avais le temps de tout te raconter, tout ce que j'ai pu voir et lire. Mais tu soupires derrière moi, je crois que tu te réveilles. Nous avons refait l'amour et tu t'es endormi. Effectivement, le vin du quartier bleu ne te réussit pas. C'est vrai, les anciens ne digèrent pas l'alcool des stations. Cela est peut-être dû à la culture hydroponique ou au soleil artificiel, je ne sais pas. En tout cas, tu t'es vexé lorsque je me suis moqué de toi à ce propos. J'oublie souvent la susceptibilité des anciens sur leurs différences avec les augmentés comme moi. Malgré les échanges commerciaux, les relations entre les anciens et les augmentés sont de plus en plus difficiles sur les stations. La plupart des tiens, ainsi que les puissants dirigeants, ne nous acceptent plus. Ravik, le vois-tu aussi ? Pourtant, c'est eux qui nous ont mis au monde, ce sont les anciens qui nous ont envoyés dans l'espace avec les androïdes pour construire ces stations. Ces stations pensées sur Terre comme leur nouvel Éden pour leurs plus grands ingénieurs et scientifiques. Lorsque les anciens sont arrivés par cargo sur les stations que nous avons mis en place, Lorsque les anciens sont arrivés par cargo sur les stations que nous avons mis en place, la Krenica et toutes ses stratégies commerciales, cette cohabitation a fonctionné. Et j'aime à croire que ces deux siècles de paix étaient sincères et non une ruse de leur part. Mais aujourd'hui, les tiens nous préparent une nouvelle guerre. Et je vous comprends, Ravik, encore une fois, vous avez peur. Vous nous avez créés puissants et presque immortels. Nous étions des outils de votre impérialisme sans limite, des symboles de votre intelligence et de votre omnipotente créativité. Nous étions les augmentés, des fantasmes de vieux terriens. Et aujourd'hui, nous sommes devenus pour vous hors de contrôle, car nous avons créé notre propre civilisation, Ravik, avec nos propres règles, notre culture et nos croyances. Nous pouvons, en un claquement de doigts, s'affranchir de la Fédération et devenir indépendants. C'est pour cela que nous allons devenir vos futures cibles. Et bien que nous soyons par définition pacifistes, si les tiens nous attaquent, et ils le feront, pour défendre une doctrine, nous riposterons. Mais tuer un homme, même augmenté, pour défendre une idée, ce n'est pas défendre une idée, c'est tuer un homme.
Oh, my God, it's a
19h53, nous sommes sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours dans Friction et voici la dernière partie de l'histoire de Ravik. Il est 6h du matin, après avoir mangé un peu de bœuf réhydraté et pris 3 pastilles de vitamine affective, j'ai mis mon sac sur le dos et je suis parti. J'ai désactivé ma perception empathique et lorsque les hormones des pastilles firent enfin effet sur mon discernement, j'ai claqué la porte sans même me retourner. Dans cet immense univers où des intelligences biologiques côtoient des intelligences artificielles, un homme qui dort paisiblement et un autre qui part sans même le toucher ni le regarder, cela reste une erreur tragique. Hier, je savais encore comment je pourrais te dire adieu, mais ce matin, je ne sais plus. Ravik, nous avons été l'espace d'un mois, une exception. Et c'est drôle car tous ceux que j'ai connus autour de moi ne parlent que de règles et de tangibilité, mais personne ne dit l'exception. L'exception d'aimer et la tentative d'exister. Notre histoire, si courte qu'elle soit, a été une petite parenthèse magique au milieu de cette guerre sournoise et irréconciliable qui monte en chacun d'entre nous. Ne pleurons pas, gardons nos larmes pour nos futurs morts.
Vous êtes toujours sur
Radio Campus Paris.
Dans l'émission Friction spéciale
science-fiction.
Alors, merci William pour ce récit en plusieurs chapitres.
Oui. J'ai eu quelques petits foirages, une petite chanson un peu avortée, mais...
Oui.
Voilà, on est en direct. Hein.
C'est ça, c'est le direct, il est tard, c'est lundi, alors voilà
on a toutes les excuses.
Je me suis posé la question de ton inspiration, ou d'où t'es venue cette idée d'histoire de Ravik.
C'est parti d'un bouquin qui s'appelle... c'est parti de juste la quatrième de couverture, parce que je viens de commencer à le lire. Enfin, j'avais commencé à écrire avant de le lire. Qui s'appelle Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, dont c'est le premier livre, et qui raconte ces communautés qui vivent dans des stations commerciales. L'humanité a quitté la Terre, ils vivent dans des stations, et ils voyagent à travers une poche, comme ça, qui ne s'appelle pas la Krenica, je l'ai appelée la Krenica, mais une poche. Et ça parle des difficultés des relations amoureuses lorsque. Un voyage dure 3 mois pour une personne, mais il se passe 10 ou 20 ans sur une station.
D'accord, c'est une inspiration aussi de ta vie personnelle ou...
Non, pas forcément.
D'accord, ok.
Voilà.
Ok, c'était passionnant et très bien écrit, bravo.
Merci Marion.
On s'envoie des fleurs un peu comme ça.
Ah mais vas-y, oui Marion, enchaînons du coup tu nous parlais que t'es plutôt dans un style de near futur.
Absolument.
De qu'est-ce qui peut se passer très très proche de nous.
Un futur proche.
Avec les élections présidentielles.
Absolument. Et donc on va s'y mettre et ça commence par la première nouvelle qui s'appelle Le sourire asymétrique. Samedi 9 avril 2022. Veille du premier tour des élections présidentielles. Assise à l'arrière du taxi, Valérie se maquillait. Malgré les soubresauts des pavés parisiens, elle comblait les rides, lissait les contours, masquait les cernes. Ses longues années en politique l'avaient rendue experte en camouflage. Camouflage des signes de l'âge, accentués par les heures de route, les verres de vin, les réunions de campagne. Camouflage des émotions. Elle s'était fabriqué un sourire un peu asymétrique qu'elle avait appris à dégainer plus vite que son ombre. Au début, Jean-Pierre trouvait que ça lui donnait un air de directrice d'EHPAD / j'ai fait un AVC. Ça la faisait hurler de rire. Valérie n'était pas dans son assiette. La campagne présidentielle s'était enlisée dans le bourbier ukrainien et elle dégringolait dans les sondages. Au fur et à mesure de cette chute, elle avait pris l'habitude de dégainer son sourire préfabriqué à tout bout de champ. Tout va bien, c'est normal, ça va passer. On résiste, on se bat. À force, le sourire asymétrique s'invitait même au lit quand elle faisait l'amour avec Jean-Pierre le dimanche matin, dans leur manoir des Yvelines. Avant, elle était fière de dire à ses amis qu'il baisait souvent en dépit des 30 années de mariage et de la politique. Et au fil des semaines, le sourire de Jean-Pierre avait suivi la courbe descendante des sondages. Aujourd'hui, il faisait carrément la gueule. Il disait qu'elle devenait un monolithe, une enveloppe minérale, vide de l'intérieur. La levrette du dimanche matin n'était plus au programme. Il dormait dans le bureau du rez-de-chaussée sous prétexte qu'elle avait besoin de se reposer. Cet après-midi, il n'était même pas venu la soutenir lors de son dernier meeting de campagne. À la place, il avait préféré aller au cinéma avec les enfants. La dernière chose qu'il avait dit, en partant, résonnait dans la tête de Valérie. C'est peut-être la dernière fois qu'on peut aller voir un film. Elle s'était demandé alors s'il faisait allusion à l'éventualité qu'elle devienne présidente de la République. Ou au fait que la menace d'une guerre nucléaire se faisait à chaque heure plus pesante. Cette dernière option était désormais à l'ordre du jour. Au point que tous les candidats étaient convoqués ce soir en urgence à l'Élysée, la veille du premier tour de l'élection. Lorsque le taxi s'arrêta devant la guérite d'accueil du palais présidentiel, Valérie était en apnée. En sortant du véhicule, le sourire asymétrique barrait son visage, son sourire du Joker version énarque prout-prout des Yvelines. Dans les couloirs de l'Élysée, les conseillers marchaient vite, l'air affolé. Les secrétaires étaient pendus à leur téléphone. Les doigts des assistants tapotaient les écrans des smartphones sans discontinuer. On avait rassemblé les candidats dans un salon attenant au bureau présidentiel. Ils étaient tous là. Valérie, Nathalie, Éric, Marine, Jean-Luc, Nicolas, Anne, Yannick, Philippe, Jean et Fabien. Personne ne parlait. Les visages étaient fermés. Quelques-uns manifestaient leur impatience par des soupirs, des allers-retours aux fenêtres. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier une convocation si tardive, la veille de l'élection ? Emmanuel fit son entrée par une porte dérobée. Pour une fois, il avait laissé son sourire préfabriqué au placard. « Le sourire, valet de pied, j'ai chié dans vos bottes », disait Jean-Pierre. Valérie ricana intérieurement. L'ex-banquier avait l'air préoccupé. Il oublia carrément de leur serrer la main, ce qui ne lui ressemblait pas, et partit s'asseoir dans un fauteuil au fond de la pièce. Les 11 candidats à sa succession le rejoignirent et s'installèrent tant bien que mal autour de lui, sur des accoudoirs de fauteuil, une fesse posée sur un guéridon. Certains restèrent debout, les bras croisés. On aurait dit une famille rassemblée autour du chirurgien, attendant le verdict d'une opération. Emmanuel se rongeait l'ongle du petit doigt, hésitant à se lancer. Jean-Luc s'agaça. « Eh bien, Emmanuel, qu'est-ce qu'on fait là? Dites-nous ce qui se passe !» Emmanuel leva les yeux. « C'est parti, mes enfants. On entre en guerre. » Quelqu'un s'exclama. « Il faut reporter les élections !»« Certainement pas !» s'emporta Eric. Emmanuel les interrompit. « Vous ne comprenez pas, ce n'est plus l'heure du débat électoral. On entre en guerre nucléaire. » Quelque chose se décrocha dans le cœur de Valérie. Elle pensa à Jean-Pierre et aux enfants. Où se trouvait-il à cet instant? Elle ne désirait plus qu'une chose, les retrouver et se terrer dans un abri souterrain. « Vous êtes certain ?» demanda Marine. « Ça a déjà commencé, » répondit Emmanuel. Il sortit son téléphone et lança une vidéo. Les 11 candidats se penchèrent pour regarder. C'était filmé en caméra cachée. On voyait Vladimir donner des directives et un militaire entrer des codes dans un ordinateur. Le plan suivant avait été filmé depuis un champ en pleine campagne, dans la nuit. On voyait un missile décoller. « Ça, c'est un missile test, » expliqua Emmanuel. « Il ne contient rien, mais la prochaine ogive sera pour nous. Il est devenu incontrôlable. Dans 30 minutes, je serai en direct devant toutes les télévisions et radios pour annoncer l'état de guerre et le report inédit des élections. C'est un moment historique et tragique. Aussi, je vous demande de vous rassembler autour de moi. Nous devons montrer un visage uni à la nation, sans quoi ce sera le chaos. Je vous laisse 15 minutes pour vous préparer. D'ici là, vous avez interdiction de sortir du palais et de communiquer avec votre entourage. » Le signal téléphonique a été brouillé. Anne protesta. « Mais tu nous prends en otage !»« Ce n'est pas moi qui décide, c'est le protocole. Tu ferais mieux de garder ton énergie pour la suite. » Emmanuel se leva et sortit de la pièce, laissant les 11 candidats sans voix, abattus. Le sourire asymétrique de Valérie avait disparu. Malgré la couche de fond de teint, son visage avait viré au gris. We'll be right back. 24 janvier 1998. Gwendal allume une clope. Une bourrasque de vent glacial emporte la fumée. Il la suit des yeux. Devant lui s'étale la zone d'activité de Bain-de-Bretagne, une ville dortoir accrochée sur la nationale qui relie Rennes et Nantes. Autant dire, nulle part. Tous les matins, entre 7h30 et 8h, Gwendal traverse la zone d'activité pour se rendre au lycée. À cette heure-là, les magasins sont encore fermés, les voitures s'arrêtent en coup de vent à la station essence, accolée au supermarché. Gwendal se demande si sa vie va se résumer à ça, traverser une zone d'activité, à tous les moments clés de son existence. Pour aller étudier, trouver un stage, acheter à bouffer, s'habiller, chercher un taf, se rendre au travail, acheter des médocs, choisir un cercueil. Emprunter ses lignes droites goudronnées jusqu'au restant de ses jours, garer sa voiture sur des rectangles délimités par des lignes blanches, entrer dans des grands bâtiments carrés, payer aux caisses enregistreuses automatiques, vider son caddie grillagé. Gwendal jette sa cigarette. Gwendal jette sa cigarette. Il lève les yeux au ciel. Quelques étoiles sont encore allumées sur le plafond de l'infini. Dans une prière muette, Gwendal demande à l'univers de lui indiquer une porte de sortie, n'importe laquelle de préférence. Gwendal traverse les parkings pour gagner du temps. Plus il s'approche du McDo, plus l'odeur de friture se fait présente dans l'air. Il contourne le fast-food et se dirige vers les poubelles. Parfois, il jette des trucs encore bons, genre des pains à burger. Ça lui fait son petit-déj. Lorsqu'il relève la tête du conteneur, les bras chargés de boîtes de nuggets, l'atmosphère a changé. L'odeur de frites a disparu. Le son des voitures de la nationale s'est tu. Gwendal se retourne. Et il sursaute, tellement abasourdi qu'il en lâche ses nuggets. Un immense anneau de feu se tient sur le parking des employés du fast-food. Gwendal est fasciné, bouche grande ouverte. L'anneau doit bien faire 4 mètres de diamètre. Sur toute sa circonférence, des flammèches crépitent sans discontinuer, mais sans générer aucune chaleur. Son centre semble brouillé, comme si une mince pellicule d'eau ou d'air couvrait la totalité du disque. Gwendal jette des coups d'œil autour de lui pour vérifier qu'il est toujours au bon endroit. Il cherche une présence humaine. Il devine des employés qui s'affairent à l'intérieur du McDo, mais aucun d'entre eux n'a la bonne idée de sortir à ce moment-là pour confirmer que ce qu'il voit est réel. Gwendal repense à sa prière muette de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a demandé déjà ? Une porte de sortie, n'importe laquelle. Putain. Note pour plus tard, la prochaine fois, il demandera 1 000 balles. Ou même 100 000 balles. Ou une meuf. Au moment où cette pensée, formulée intérieurement, achève son éclosion, la porte du McDo s'ouvre. Une employée sort, tenant dans chaque main un grand sac poubelle. C'est Elsa, une meuf du lycée qu'il avait déjà remarquée. Elle a un tatouage de dragon dans le cou et une cicatrice sur le coin gauche de la bouche, un endroit où il imagine souvent poser ses lèvres. Elsa se rapproche des conteneurs et de Gwendal, mais ne semble pas remarquer l'étrange scène qui se déroule devant ses yeux, un grand roux qui piétine des nuggets face à un gigantesque cercle de feu. Gwendal se dit qu'il est devenu invisible, ou alors il est déjà dans une réalité parallèle, ou bien elle fait semblant de ne pas le voir. Elsa jette ses grands sacs dans la grande poubelle et rebrousse chemin vers le restaurant. Mue d'une inspiration subite, Gwendal lance « Elsa, je suis là !» Elsa se retourne. Elle a cru entendre une voix très lointaine qui l'appelait. Elle plisse les yeux et scrute le parking, tout juste éclairé de premières lueurs grisâtres de la matinée. Elle ne voit que les poubelles et les voitures de ses collègues, et un tas de boîtes de nuggets par terre, juste devant les conteneurs qu'elle n'avait pas remarqués. Ah, ça l'agace. Elle sait qu'un ou deux mecs du lycée récupèrent de la bouffe le matin. D'ailleurs, elle prend soin de laisser en évidence ce qui est le plus comestible. Il pourrait au moins ne pas tout dégueulasser. À ce moment-là, Elsa prend conscience du silence autour d'elle. Plus aucun bruit sur la nationale. L'air qu'elle respire est tiède. Elle reste immobile. Elle jette à nouveau un coup d'œil sur le parking. Et elle entend « Elsa ». C'est faible, très éloigné. On dirait que ça vient des poubelles. Elle scrute encore. Il n'y a rien. Elle tend l'oreille. « Elsa !» Crise cardiaque. Son responsable, Jérôme, vient d'ouvrir la porte arrière du fast-food. « Elsa, qu'est-ce que tu fous ? Dépêche-toi, on t'attend au drive !»« J'arrive !» Après un dernier regard sur le tas de nuggets, elle rentre à l'intérieur et claque la porte. Gwendal se retrouve seul. Il se rapproche de l'anneau de feu qui flotte à quelques centimètres au-dessus du sol. Il réfléchit. Il repense à ce chemin tout tracé jusqu'au cercueil qui l'attend, à Elsa qui ne le voit pas, qui ne l'a jamais remarqué de toute façon, à la porte de sortie. Gwendal prend une inspiration profonde. Sans un regard en arrière, il franchit l'anneau de feu, traverse la matière floue et disparaît.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Avril 2002. Saint-Cardo de Brouilly, Bretagne. Soir du premier tour des élections présidentielles. 2002. Adèle et Mélanie traversent la place du village. Il est presque 2h du matin. Les réverbères sont éteints. La pleine lune éclaire les rues. Ils rentrent de soirée. Ils étaient chez des copains. C'était bien. Ils ont bu tout ce qu'il y avait à boire, mangé tout ce qu'on leur a proposé, bien dansé. Leur seule erreur a été de boire du rhum. Ils le savent pourtant. On pourra en faire le slogan de leur vie de couple. Le rhum, détonateur de vos meilleures engueulades. Quand ils boivent du rhum, ça part tellement en vrille qu'ils se sont imposé une règle. Si l'un en boit, l'autre s'abstient. Ce soir, c'était différent. C'était le premier tour de l'élection présidentielle 2002. Un premier tour tragique. Quand la tête de Jean-Marie Le Pen s'est affichée aux côtés de Jacques Chirac, Adèle et Mélanie ont dessoulé d'un coup. Mélanie est devenue encore plus pâle que d'ordinaire. Ses grands yeux bleus semblant vouloir sortir de leurs orbites. Adèle, le joyeux trublion de la bande, est resté muet, mâchoire serrée. Il a fixé l'écran de télévision sans le voir. Après ça, le rhum a été de rigueur et la soirée est partie en vrille. Presque la fin du monde. Adèle et Mélanie ont enchaîné les shots. Ils ont dansé jusqu'au vertige. Autour d'eux, les gens oscillaient entre colère, incrédulité et désespoir. À un moment, suivant leur code secret qui signifie « j'en ai marre, on se casse », tiré deux fois le lobe de l'oreille droite, ils ont récupéré leur veste et ont quitté la fête sans dire au revoir. Le temps de remonter le chemin de la rivière jusqu'à la place de l'église, ils se sont engueulés deux ou trois fois. À présent, Adèle et Mélanie arrivent à l'entrée du lotissement. C'est un nouveau quartier. Toutes les maisons se ressemblent. Leur ivresse a désormais atteint un plateau. Leur champ de révision et de vision est rétréci au maximum. Les numéros des habitations sont flous. « C'est où déjà, chez nous ?» demande Adèle. « Par là !» répond Mélanie en avançant au hasard dans une rue. Elle pense reconnaître le pommier de leur voisin Rémi. Souvent, Mélanie se demande ce qui leur a pris de s'installer ici, entourée de famille, plan-plan, gamin, chien, trampoline. Puis brusquement, elle prend à gauche, elle pousse un portail et se dirige vers une maison. Adèle la suit comme une ombre avec un temps de retard en zigzagant. Mélanie appuie sur la poignée de porte d'entrée et elle rentre dans la maison, dans la pénombre. Adèle marque un temps d'arrêt sur le palier. Dans sa tête, les images de la soirée se mélangent, la cassette se rembobine lentement, très lentement. Place de l'église, Rome, la fête, Jean-Marie Le Pen, place de l'église, lotissement. Mélanie, on n'avait pas fermé la porte en partant ? Un cri retentit quelque part à l'intérieur de la maison. La mâchoire d'Adèle se crispe et il entre à son tour. Mélanie, tout va bien ? Il lui faut un certain temps pour trouver l'interrupteur. Celui de l'entrée n'est plus à sa place. Adèle se demande s'il ne va pas tomber nez à nez avec un cambrioleur, ce qui expliquerait pourquoi la porte était ouverte, alors qu'il se rappelle maintenant très bien l'avoir fermée avant de partir. Il sent l'interrupteur sous ses doigts. Et avant même de l'actionner, Adèle réalise qu'ils se sont trompés de maison. Chez eux, les interrupteurs sont carrés, alors qu'ici, ils sont de forme arrondie. À la lumière, Adèle constate aussi que la disposition des pièces est inversée par rapport à leur maison. Mélanie est à l'entrée de la cuisine, son visage éclairé par l'ampoule de la hotte. Elle tremble. Adèle s'approche, il lui prend la main pour la rassurer, sourire aux lèvres. Il voudrait dire « Ça va Mélanie, on s'est trompé de maison ?» Mais pour la seconde fois de la soirée, Adèle, le trublion de service, l'as de la répartie, qui a toujours le mot juste, pour rire ou pour comprendre, eh bien Adèle reste muet. Face à eux, les occupants des lieux. Une famille est assise autour de la table. Enfin, ce qu'Adèle pense être une famille. Trois ou quatre individus de taille et de corpulence diverses. Il semble avoir été surpris au milieu de quelque chose, mais Adèle ne saisit vraiment pas quoi. Ce qu'il prenait pour la lumière de la hotte est en réalité une petite sphère blanche en suspension qui diffuse un halo de lumière. Plusieurs sphères flottantes sont dispersées dans la pièce. Mélanie veut dire quelque chose, mais le son qui sort de sa bouche n'est qu'un gargouillis inaudible. L'une des personnes, mais est-ce qu'on peut les désigner sous ce nom, se lève et vient à leur rencontre. C'est une sorte d'humain mal dessiné, comme si on avait fait un croquis à main levée qu'on avait modélisé ensuite avec une imprimante 3D, impression en mode brouillon noir et blanc. L'être ressemble plus ou moins à leur voisin Rémi. Mélanie se reprend. « Rémi, c'est vous ?» La voix qui s'échappe de l'ersatz de Rémi est bien celle de leur voisin. « Bonsoir Mélanie, bonsoir Adèle. J'ai l'impression que vous vous êtes trompée de maison. Enfin bon, ça arrive, surtout quand on boit trop de rhum. » Mélanie bug. « Mais... » Adèle l'interrompt. « Mélanie, arrête de bégayer. »« Rémi, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est arrivé à votre corps ?» L'ersatz de Rémi étire une fente qui s'apparente à un sourire. Il dévoile une sorte de corail séché. Ses dents, suppose Adèle, en son fort intérieur. L'être répond « Oui, ce sont bien mes dents », comme s'il avait lu dans les pensées d'Adèle. Mélanie, Adèle, votre visite tombe bien. Nous avons à cœur d'établir des relations ouvertes et sincères avec les peuples que nous étudions. Votre temporalité n'étant pas la nôtre, il est assez rare que nous ayons l'occasion de nous dévoiler. C'est votre jour de chance. Deux siècles plus tôt, nous aurions été obligés de vous faire disparaître. Autour d'Adèle de bégayer. Chance ? Mélanie demande. Notre temporalité ? Mais vous êtes qui ? Vous venez d'où ? L'être prend une inspiration par les yeux et se lance. Nous sommes des descendants de l'espèce humaine, mutés après des millénaires de déploiement dans les diverses galaxies voisines. Nous venons de la planète TOI 700. Nous sommes nés longtemps après vous. Nous sommes des sortes d'archéologues. Nous cherchons des traces du berceau de l'humanité. Nous voulons vérifier qu'elle est bien apparue sur Terre. C'est une connaissance qui s'est perdue au fur et à mesure que les humains se sont installés sur différentes planètes et qu'ils ont créé de nouvelles civilisations et des sous-espèces humaines. L'ersatz de Rémi se tait. Il semble attendre une réaction. Pour la troisième fois de la soirée, Adèle ne trouve pas de répartie. Il ferme les yeux, son esprit fait un tri rapide des informations et un léger sourire pointe au coin de sa bouche. Bon, vous êtes au courant qu'en France, vu les résultats des élections de ce soir, ils ont l'air de croire qu'il y a en effet plusieurs races d'êtres humains, et que Mélanie et moi, nous pensons le contraire. C'est un hasard qu'on se rencontre ce soir ? Vous avez un message à transmettre au peuple français qui s'apprête à choisir entre Chirac et Le Pen ? Le sourire de l'être s'élargit, dévoilant deux autres rangées de coraux et quelques algues vertes. En effet, Adèle, rien n'est dû au hasard. Je n'ai qu'une chose à vous dire, et vous pourrez reprendre le cours tranquille de vos vies. Manger des pommes. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et c'est Friction qui continue. Et nous sommes désormais le 24 janvier 2075, zone d'activité de Bain-Bretagne. Tout est plongé dans le silence. Une couverture grise voile le soleil en permanence. Des touffes d'herbe et des racines ont défoncé le bitume d'un ancien parking. Des broussailles et des ronces recouvrent quasiment toutes les surfaces. Sauf une petite zone circulaire délimitée très précisément. Comme si un jardinier minutieux s'était employé à tailler à cet unique endroit sur un cercle de 4 mètres de diamètre, au milieu de nulle part. Et puis une trouée dans le silence. Le désert de ronces et de bitume s'emplit de lumière et de crépitement. Au-dessus du cercle dégagé se forme un anneau de feu de 4 mètres de haut. Quelque chose apparaît au centre de l'anneau. Une silhouette le franchit depuis une dimension invisible à l'œil nu. Et d'un coup, Gwendal est de retour sur le parking du McDo. Une combinaison spatiale et un casque le protègent des émanations radioactives présentes dans l'atmosphère depuis la guerre nucléaire de 2022. Son ordinateur de bord s'affole. Gwendal consulte les comptes rendus de radioactivité. Même 53 ans après l'explosion du missile russe dans l'ouest de l'Europe, les taux restent encore trop élevés pour qu'il soit possible de respirer l'air extérieur. Les années sur Terre ont défilé, mais le temps ne semble pas avoir eu de prise sur Gwendal. Son visage est resté juvénile, ses cheveux roux n'ont pas blanchi. Seule une barbe de quelques jours assombrit ses traits. Après son départ, ses voyages intergalactiques ont duré 5 ans. En parallèle, sur Terre, 77 années se sont écoulées. Il a tout juste vieilli depuis cette année 1998, où l'anneau de feu lui est apparu alors qu'il fouillait les poubelles du fast-food au petit matin. Gwendal est toujours au centre du cercle dégagé de ronces. Il observe les alentours avec attention. Les bâtiments des magasins sont devenus vétustes. Les animaux vont et viennent sans crainte dans la zone vidée de toute activité humaine. Des carcasses de voitures gisent çà et là. Les routes sont couvertes d'une épaisse couche de végétation. Sur le parking du fast-food, seul un conteneur émerge des broussailles. Gwendal actionne son réacteur dorsal pour survoler le taillis épineux et se rapprocher du conteneur. Il ouvre le couvercle et allume sa lampe frontale. Le conteneur est resté étonnamment propre, comme s'il avait été nettoyé régulièrement pendant 70 ans. Gwendal pousse une exclamation, presque un sanglot. Au fond du conteneur quasiment vide, il découvre une boîte en carton. Une boîte de nuggets. Gwendal s'en empare. Les larmes aux yeux, il croit presque sentir le fumet de poulet qui lui emplissait les narines à l'époque. Il l'ouvre. Au lieu des nuggets, il y a un origami, un pliage en papier japonais, qui représente un dragon. Gwendal frémit. De la main gauche, il scanne le pliage. Les résultats indiquent qu'un mot est écrit à l'intérieur, un mot qui lui serait adressé. De la main droite, il tend l'index et dessine 2 cercles. L'hologramme de l'origami apparaît en suspension et se déplie, dévoilant une écriture fine et ronde. Une voix se fait entendre, la voix d'une personne âgée venue d'outre-tombe. « Gwendal, ce jour-là, je t'ai entendu. Fais-moi signe quand tu seras de retour. Elsa. »
J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur 100 mers et abordé 100 rivages. Partout j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire, et de grands pédants de la cantonade qui regardent, se taisent et pensent qu'ils savent parce qu'ils ne boivent pas le vin des tavernes. Méchantes gens qui cheminent en empestant la terre. Partout j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leur leur petit lopin de terre. Jamais s'ils arrivent quelque part, ils ne demandent où ils arrivent. Là où il y a du vin, ils boivent du vin. Où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche. Ce sont de bonnes gens qui vivent, travaillent, passent et rêvent. Et qui, un jour, comme les autres, reposent sous la terre, reposent sous la terre.
Janvier 2080. Communauté souterraine numéro 16. À chaque enterrement, toute la communauté se réunit dans la salle centrale du village souterrain sous la verrière. Avant l'incinération du corps, un membre de la famille ou de l'entourage prend la parole. Ce jour-là, c'est Fatima qui s'exprime devant l'assemblée composée d'une centaine de personnes. Ma grand-mère n'était pas une grand-mère comme les autres. C'était quelqu'un de spécial, quelqu'un qui restait résolument ancré dans son temps. Elle disait souvent « Je suis toujours jeune, moi », comme pour défier quiconque de lui rappeler qu'elle était centenaire. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour célébrer la vie d'Elsa, ma grand-mère maternelle. Elle est décédée hier à l'âge de 100 ans. C'était la doyenne de notre communauté. C'était surtout l'une des dernières personnes à avoir vécu suffisamment longtemps en surface pour se souvenir du monde d'avant. C'est l'une des rares personnes de notre communauté à avoir déjoué les pronostics des médecins. À chaque bilan médical, il s'étonnait de constater qu'elle était toujours en vie, malgré la guerre nucléaire, les émanations radioactives, la faim et le manque de lumière. Ma grand-mère était une battante. Il y avait en elle une force indestructible qui l'a fait tenir toutes ces années. Une sorte de foi en l'humanité, en l'avenir, que je n'arrivais pas toujours à comprendre. Parfois c'était mystique, messianique même. Elle me disait quand j'étais petite, « Tu verras Fatima, on finira par trouver une solution. Il nous aidera. » J'ai le sentiment qu'elle ne me racontait pas tout. Pourtant, ma grand-mère partageait volontiers ses souvenirs. Elle aimait parler de sa jeunesse en Bretagne, quand elle était étudiante et employée dans ce qu'on appelait alors un restaurant fast-food. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, c'était un lieu où les gens se rassemblaient pour manger de la nourriture fabriquée dans des usines. Après cela, ma grand-mère a traversé une sorte de passage à vide. Elle était assez secrète sur cette période. Elle m'a juste confié avoir perdu une personne de son entourage. Je n'ai pas vraiment compris de qui il s'agissait. Elsa a quitté la région, elle s'est mise à voyager en France, en Europe et ailleurs. Cette frénésie de voyage a duré presque 2 décennies, comme si le monde n'était pas assez vaste pour sa quête. En 2022, elle a 42 ans lorsque la guerre nucléaire éclate. Et à ce moment-là, elle se réinstalle à Bain-de-Bretagne. Elle revenait souvent dans le secteur, mais je crois qu'elle avait finalement décidé de s'y implanter une bonne fois pour toutes. Elle avait exercé 1000 métiers dans sa jeunesse et à ce moment-là, elle choisit d'entretenir les espaces verts de la ville. Une manière pour elle de rester à l'air libre. Lorsque la première ogive a touché la France ce jour-là, elle était en train de tailler des arbres en extérieur. Elle m'a souvent raconté ce qui s'est passé. Le brusque changement d'atmosphère, le silence, puis un tonnerre métallique qui a grondé plusieurs heures. Elle a vu des nuées d'oiseaux qui fuyaient en direction de l'océan. Les sirènes ont retenti dans toute la ville. Le ciel a rougeoyé pendant des semaines. Les nuages étaient verts et violets. Tout le monde a été confiné. Après 2 années de pandémie de Covid, les gens étaient entraînés et préparés. Ensuite, c'est un peu flou. C'était une période terrible. Beaucoup de gens sont morts ou sont tombés malades. Ceux qui sont restés en vie et en bonne santé ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'années enfermés chez eux, approvisionnés en vivres par le gouvernement. Au bout d'un moment, les aides de l'État se sont taries. Alors les gens ont commencé à creuser des tunnels dans les maisons. Et c'est comme ça que ma grand-mère a rencontré mon grand-père, dans un tunnel. C'est un peu le symbole de leur histoire d'amour, ces souterrains. C'est là que ma mère a vu le jour et que je suis née ensuite. Faire un enfant dans ces conditions, ça paraissait être de la folie à l'époque. Ça paraît encore un peu plus fou aujourd'hui. Pas pour ma grand-mère, elle avait déjà cet espoir chevillé au corps. Tout va bien, c'est normal, ça va passer, on résiste, on se bat. Elsa était patiente, elle faisait partie du genre fourmi. Je creuse mes galeries, je stocke et je m'organise. C'est grâce à elle si notre communauté se porte aussi bien aujourd'hui. Toute sa vie, ma grand-mère n'a eu qu'une seule obsession. Elle tenait absolument à revenir une fois par an sur les lieux de son passé, et particulièrement au restaurant où elle avait travaillé quand elle était jeune. Elle disait vouloir se recueillir. je l'ai accompagnée plusieurs fois ces dernières années pour l'aider à traverser la zone. À chaque fois, elle faisait une prière à l'univers. Je lui posais toujours la même question. « Mais qu'est-ce que tu demandes à l'univers, grand-mère ?» Elle me donnait toujours la même réponse. « Une porte de sortie, n'importe laquelle, de préférence. » Vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
Toujours sur Radio Campus Paris avec Friction. Friction qui prend fin. Il est 23h51. Merci Marion pour ces histoires. Et en fait, qui ont, je trouve que nos deux histoires sont un peu répondues par ce problème des voyages et du temps qui fait que des relations d'amour ne se concrétisent pas.
Oui, effectivement, on se disait hors antenne, ce décalage qui peut se produire parfois parce qu'on n'est pas au même moment dans sa vie et du coup, nos destinées se croisent et des histoires d'amour qui sont perdues, quoi.
C'est, voilà, avorté.
Oh, qu'est-ce qu'on est gays.
Ouais, c'est lundi, hein, faut pas trop nous demander.
Une bonne petite guerre nucléaire pour commencer la semaine, c'est parfait. J'étais en train de chercher la date de la prochaine émission et je l'ai trouvée, mesdames, messieurs. Notre prochaine émission sera en direct le lundi 20 mai, voilà, prochain.
Donc c'est très bientôt, un mois et demi.
Oh là là, la pression, voilà. On pourrait écrire.
Et ce sera le dernier numéro de Friction
de la saison. De la saison, oui.
Voilà.
Donc, on n'a pas encore trouvé de thème et on vous annoncera ça bientôt sur les réseaux. Merci à Antonin, notre cher réalisateur, de nous
d'avoir veillé pour nous.
D'avoir veillé sur nous. Tu nous fais un veillez coucou, Antonin.
Coucou.
Coucou. Et puis, on vous souhaite une belle nuit.
Belle nuit sur Radio Campus Paris.
À bientôt.
Radio Campus Paris.